On va continuer notre étude de l'histoire du Nouveau Testament. Et donc, nous avons vu que depuis un certain nombre d'années, maintenant, un certain nombre de chercheurs sont arrivés à la conclusion que le Nouveau Testament est beaucoup plus ancien que ce que l'on pensait jusqu'alors. Et notamment, il semble bien que, notamment au vu de la découverte de fragments des évangiles dans les manuscrits de la Mer Morte, eh bien, la rédaction des évangiles date d'avant 70, d'avant la destruction du Temple. Et ça, c'est extrêmement important, parce que jusqu'alors, tous les spécialistes prétendaient que les évangiles avaient été composés après 70. Et l'argument qui était avancé était le suivant, c'est que les évangiles synoptiques, notamment, annoncent, mettent dans la bouche de Jésus, l'annonce prophétique de la ruine de Jérusalem. Or, pour les critiques, la prophétie n'existe pas. Il est impossible de prévoir un événement. Par conséquent, les prophéties qui étaient dans le Nouveau Testament sur la ruine de Jérusalem étaient obligatoirement des prophéties post-eventu, ça veut dire après l'événement, et par conséquent, il était indispensable que les évangiles soient datés, enfin, en particulier les évangiles synoptiques, d'après 70. Alors, ça s'est âgé entre les années 80 jusqu'à la fin du siècle, en gros, et pour l'évangile de Jean, deuxième siècle. Déjà, cette théorie avait été mise en doute par des chercheurs tels que ceux de Jérusalem en particulier, professeur Flusser, et les dernières découvertes du professeur Tieckl, n'est-ce pas, sur les manuscrits de la Mer Morte et les fragments de l'évangile de Marc, fragments de l'évangile de Matthieu et de Jean, pratiquement de tous les évangiles, n'est-ce pas. Maintenant, si du moins ces fragments sont authentiques, n'est-ce pas, et appartiennent bien au gros des manuscrits de la Mer Morte, comme il semble que ce soit le cas. C'est ce qu'a prouvé, par exemple, le laboratoire de recherche criminelle de la police de Jérusalem, la police israélienne, qui a examiné donc avec soin ces fragments et qui a conclu à leur authenticité. Alors là, nous aurions la preuve irréfutable que les évangiles ont été écrits avant 70. Par conséquent, que la prophétie est bien une prophétie, que Jésus l'a bien prononcé cette prophétie-là, et puis que nous avons donc ici un texte qui est extrêmement sûr. Un spécialiste des manuscrits de la Mer Morte qui s'appelle le professeur Jean de Carmignac, l'abbé de Jean de Carmignac, pardon, il n'était pas professeur, il était abbé, pouvait dire que on connaît aujourd'hui Jésus grâce aux évangiles aussi bien que si l'on avait vécu en Israël à la fin du 1er siècle, quelques années après la mort de Jésus. Si un d'entre nous s'était trouvé là, à ce moment-là, il aurait appris quelques détails supplémentaires qui ne sont pas conservés dans les évangiles sur la vie et sur l'enseignement de Jésus, mais rien qui ajoute quelque chose de fondamental à ce que les évangiles nous déclarent. Parce que finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que entre Jésus, entre les paroles et les actes de Jésus et moi, il y a deux ou trois intermédiaires au plus. Il y a ceux qui ont recueilli les paroles de Jésus, qui les ont mises par écrit, vraisemblablement en hébreu, on va voir ça dans un moment. Deuxièmement, ceux qui l'ont traduit en grec. Et puis finalement, le récepteur, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, ce qui fait problème, c'est qu'il y a un temps long. Mais finalement, le nombre d'intermédiaires est limité. Par contre, quand nous recevons une information à la radio ou même à la télévision, Évidemment, c'est presque instantané, et c'est ça qui donne l'impression de vérité. Mais entre l'information et nous-mêmes, il y a un nombre infiniment plus grand d'intermédiaires. Il y a le journaliste qui a filmé, il y a ceux qui ont reçu le studio de télévision où ça a été reçu, il y a ceux qui ont fait le montage qui va être présenté aux téléspectateurs, il y a celui qui fait le commentaire, etc. Enfin bref, il y a un nombre infiniment plus grand d'intermédiaires, si bien que finalement, sur un plan strictement scientifique, plus vous multipliez les intermédiaires, et plus vous multipliez les risques de déformation. Ça, c'est facile à vérifier. Vous avez sûrement fait ce jeu au louveteau, hein, où on met les louveteaux en rang, et puis alors le premier raconte, raconte une histoire dans le creux de l'oreille au premier de la chaîne, qui raconte la même histoire à son voisin, etc. Et puis quand on arrive au bout de la chaîne, puis éclat de rire général, parce que ça ne veut plus rien dire. Bon. Plus le nombre d'intermédiaires est grand, plus il y a risque de déformation. Alors, ici, nous avons un nombre d'intermédiaires petits. Et finalement, les conclusions des savants tels que Jean de Carmignac ou d'autres, n'est-ce pas, sont très intéressantes parce que la thèse fondamentale de Rudolf Bultmann, qui a été le père de ce qu'on appelle la Formgeschichte, je ne sais pas si je prononce bien, sûrement pas. L'histoire des formes, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas ? Bultmann, qui était professeur en Allemagne, entre les deux guerres, a émis l'idée, l'hypothèse qui a révolutionné toute la recherche néo-testamentaire. Et aujourd'hui, si on est dans l'ère post-bultmannienne, les thèses essentielles de Bultmann continuent à être professées par beaucoup, n'est-ce pas ? L'idée fondamentale de Bultmann était celle-ci, c'est que le Nouveau Testament, parce qu'il avait été écrit très tard, bien après les événements qu'il rapportait, n'était pas un document fiable, et qu'il reflétait non pas l'enseignement de Jésus, mais ce qu'il appelait la foi de l'Église. Et la thèse de Bultmann était celle-ci, c'est que Jésus avait tellement impressionné ceux qui l'avaient connu, n'est-ce pas ? Qu'on avait transmis en quelque sorte une personnalité de Jésus qui était devenue avec le temps une personnalité mythique. Et notamment, on avait ajouté à l'histoire de Jésus tout le côté merveilleux, la naissance miraculeuse, les miracles, bien entendu la résurrection à laquelle Bultmann ne croyait pas. Et c'était évidemment des choses mythiques, disait-il. Et on ajoutait ces détails mythiques parce que on vivait dans un monde pas très évolué par rapport au nôtre, un monde où les gens étaient crédules, les gens étaient naïfs, croyaient n'importe quoi. Et en ajoutant donc la dimension du merveilleux à l'histoire de Jésus, ça faisait plus plausible, plus crédible, c'était plus crédible pour les gens de l'époque. Et alors, finalement, les églises ont reçu ces témoignages sur Jésus, et puis les églises ont continué à broder sur le thème de Jésus, quoi. Et notamment, Paul a inventé cette idée de la mort expiatrice de Jésus, que Jésus n'avait jamais enseigné. Jésus ne s'était jamais vu comme ça. Jésus ne croyait pas qu'il allait mourir, il croyait qu'il allait réussir, etc. Et par conséquent, Paul a récupéré en quelque sorte l'échec de Jésus pour en faire la théologie qui était la sienne, qu'on trouve exposée dans l'Épître aux Romains, et qu'on trouve dans les Évangiles. Alors, les églises qui ont reçu ce témoignage, d'ailleurs, ils se permettaient de trouver qu'il y avait des théologies différentes dans les évangiles différents, d'où justement l'histoire des formes, il y avait des formes différentes, n'est-ce pas ? C'était une évolution, tout ce qu'on pouvait savoir en étudiant les évangiles, ce n'était pas l'histoire de Jésus, mais c'était l'histoire des églises qui avaient reçu le témoignage de Jésus. Alors il y avait les églises de Jérusalem, par exemple l'évangile de Matthieu reflétait la théologie de l'église de Jérusalem, l'évangile de Luc reflétait la théologie paulinienne, l'évangile de Marc reflétait la théologie de l'église de Rome, et puis l'évangile de Jean c'était ce qu'il appelait le milieu johannique, n'est-ce pas, qui était quelque chose de particulier pour lui. Et alors il arrivait à cette conclusion que les évangiles ne nous enseignaient absolument rien sur le Jésus historique. Et ce qui était le grand débat, n'est-ce pas, avant Bultmann, c'est-à-dire qu'est-ce qui était justement spéculation humaine et ce qui était du véritable Jésus, du Jésus historique dans les évangiles. Et finalement, c'était, vous savez, les critiques libéraux du XIXe siècle essayaient de retrouver ce qu'ils appelaient le Jésus historique. Eh bien, Bultmann a dit, c'est une tentative qui est vaine, parce que c'était de fait. Il est certain qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur ce qu'était du Jésus historique et ce qu'était du Jésus mythique. Pour une bonne et simple raison, c'est que le Jésus mythique n'existe pas. Mais oui, il partait du point de vue différent. Et Bultmann dit, non, tout est mythique dans l'Évangile, de A jusqu'à Z. Il y a pratiquement que quelques rares paroles qui sont des paroles authentiques de Jésus. Donc l'Évangile ne peut rien nous apprendre sur Jésus. Alors on peut se demander, arrivé à ce stade, ce que ce gars-là faisait encore dans l'Église. Il aurait mieux fait d'aller planter des choux ou s'inscrire au Parti socialiste ou au Parti communiste. Il aurait certainement été beaucoup plus utile là-bas. Mais comme il était grassement payé pour tenir de semblables discours, vous pensez bien qu'il se serait bien gardé de claquer la porte. Seulement, ce Bultmann-là a détruit la foi de générations et des générations de chrétiens, tant catholiques que protestants. Et c'est le professeur Flusser qui raconte comment un jour il se trouvait dans un colloque, justement, avec des disciples de Bultmann. Bultmann était mort déjà depuis nombre d'années, mais ses disciples étaient toujours bien vivants et sa doctrine était toujours bien vivante. Et le professeur Flusser, qui est un juif, qui n'est pas chrétien, qui a étudié donc les évangiles dans le contexte juif, dans le contexte archéologique, qui est un grand spécialiste aussi des manuscrits de la mer morte, s'est efforcé de montrer comment l'évangile s'inscrivait vraiment dans le judaïsme de l'époque du 1er siècle, et que là, tant les paroles de Jésus que les actes de Jésus s'intégraient à fond dans ce contexte-là, et par conséquent, qu'on avait une image nouvelle de Jésus qui apparaissait à la lumière des sources de son temps. Et quand il a eu terminé son exposé, un des professeurs s'est levé, ce professeur allemand qui a déclaré que tout ça c'était nul et non avenu, et qu'il n'y avait pas un mot de ce qu'avait dit ce pauvre professeur Flusser qui était vrai. Que c'était cette espèce de pauvre gars qui venait de Jérusalem, là comme ça, même pas chrétien, qui plus est. Et un débat s'est engagé entre professeur Flusser et ce professeur, qui a repris les thèses de Bultmann. On ne peut rien connaître sur Jésus, etc. Il a dit, si ce n'est... Alors, Flusser lui a dit, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est authentique dans l'Évangile? Oui, une seule parole. Il dit, moi j'étais élève de Bultmann, et j'ai entendu Bultmann dire qu'il y avait une seule parole dans l'Évangile qui était une parole authentique de Jésus. Alors Flusser a naïvement dit, laquelle? Alors il réfléchit un instant, je ne me souviens plus. Il n'a même pas été capable de dire la seule parole qui pour lui était une parole authentique de Jésus. Le professeur Flusser était écœuré quand il est sorti de là, et cette histoire, il la raconte à qui veut l'entendre, parce que ça l'a tellement frappé que vraiment, il en est resté très très marqué. Alors donc, aujourd'hui, il est certain que certains continuent à croire à cette vision bultmannienne de l'Évangile, notamment dans les milieux protestants libéraux. Il a toujours beaucoup de succès, même si on corrige un peu quelques excès les plus flagrants aujourd'hui. Mais dans d'autres cercles, maintenant, il est bien évident qu'on redécouvre la grande valeur des Évangiles. Et à partir du moment où les évangiles datent d'avant 70, toute une partie de l'argumentation de Bultmann s'effondre comme un château de cartes. Ne serait-ce que précisément parce que maintenant on peut affirmer avec certitude que Jésus a bien annoncé la destruction de Jérusalem. Et si ce n'est pas Jésus, eh bien, un prophète certainement qui avait au moins l'envergure de Jésus pour pouvoir annoncer une chose pareille, qui n'était pas évidente du tout à l'époque où les évangiles ont été rédigés. Alors, autre chose extraordinaire, c'est qu'on a trouvé des fragments de l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, qui était daté du 2e siècle, du début du 2e siècle, maintenant on sait que pour le moins, il date du 1er siècle. Donc aussi, qu'il est très proche des événements. Un détail parmi d'autres pour le montrer. Dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, il est question, de, vous savez, dans les noces de Cana, de 6 vases de pierre qui étaient à l'entrée de la maison et qui servaient à la purification des Juifs. Et c'est dans ces vases de pierre que Jésus donc a changé l'eau en vin commencé. Bon. Oui, pourquoi pas, vases de pierre. Bien. Or, il y a quelques années de cela, dans les fouilles du quartier juif, du quartier hérodien de Jérusalem, on a découvert des vases de pierre. Et on sait depuis lors que les vases de pierre étaient des vases qui étaient fabriqués à Jérusalem. Il n'y avait qu'à Jérusalem qu'on fabriquait à cette époque-là des vases de pierre. Nulle part ailleurs. Et ces vases de pierre étaient spécialement réservés pour des usages cultuels. On ne pouvait pas les utiliser pour autre chose. Et en 70, quand Jérusalem a été détruite, les fabriques de vases de pierre ont été détruites également. Et à l'époque de la Mishnah et du Talmud, l'époque qui a suivi la destruction du Temple, on a cessé d'utiliser des vases de pierre et on ne savait même plus qu'à la fin de l'époque du deuxième Temple, on utilisait des vases de pierre. Voilà. Or, l'évangile de Jean nous dit qu'il y avait 6 vases de pierre qui servait à la purification des Juifs. Ça veut dire qu'il servait à un usage cultuel, et non pas un usage profane, conformément à ce qu'on a redécouvert. Si l'évangile de Jean, l'abbé de Carmignac, si l'évangile de Jean avait été rédigé au début du deuxième siècle, comme on l'affirme, à cette époque-là, on n'utilisait plus les vases de pierre. Et encore une fois, quand on lit la Mishnah et le Talmud, il n'y a pas une seule allusion à cette coutume-là. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on est en pleine époque de la Mishnah, logiquement début du IIe siècle, hein, à cette époque-là, on a oublié qu'on avait des vases de pierre qui servaient à des usages cultuels du temps où le temple existait. Comment l'auteur supposé du livre de Jean, le faussaire dont on veut nous faire croire l'existence, comment, alors que les rabbins les plus célèbres de l'époque avaient oublié qu'on avait utilisé des vases de pierre jusqu'à la destruction du temple pour des usages cultuels, comment le faussaire que réécrit l'évangile de Jean aurait-il pu savoir qu'on utilisait des vases de pierre à l'époque du deuxième temple et qu'à Cana, il y avait des vases de pierre pour la purification des Juifs? C'est un détail, mais c'est un détail qui marque l'authenticité. Ça, c'est un détail qu'un détective, un Sherlock Holmes, note immédiatement. C'est par des petits détails comme ça que les faussaires les plus fins se trahissent. Et on peut monter, d'un point de vue policier, un alibi extraordinaire, mais si on oublie un détail de ce genre, on est cuit. Eh bien, l'évangile de Jean cite le fait. Ça veut dire que le récit, les noces de Cana, a été rapporté par un contemporain, par un témoin oculaire, qui connaissait les usages de cette époque-là, usages qui ont été perdus, encore une fois, après la destruction du Temple. Alors, ça c'est un détail parmi d'autres, je pourrais en amener, en citer des dizaines et des dizaines que l'abbé de Carmignac, notamment, a relevé tout au long des évangiles, pour montrer justement l'authenticité. Le professeur Flusser a fait la même chose de son côté aussi, alors sur d'autres plans, sur, par exemple sur les béatitudes, n'est-ce pas ? Par exemple, un détail, Pultmann et son école affirment que Jésus n'a jamais pu dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront assasiés ». parce que nulle part, ben, il n'y avait de prière juive de ce type-là. Jamais les juifs n'ont parlé comme ça. Bon, c'est déjà pas un argument, parce que Jésus pouvait parler autrement que ce qu'il faisait de son temps. Enfin bon, soit, c'était son argumentation. Vous voyez qu'elle est pauvre déjà. Bon. Alors, finalement, dans toutes les facultés de théologie, on enseignait qu'il faut corriger le texte des Béatitudes en disant « Heureux ceux qui ont faim de justice ». Et le mot « soif » n'apparaissait pas. Parce qu'on a des prières juives où il est question d'avoir faim. Mais il n'est jamais question d'avoir soif. Et même un homme aussi scrupuleux que le professeur Flusser avait cette vue. C'est lui qui m'a raconté ce détail. Et un jour, il se trouvait, c'était un Yom Kippour, un jour de Yom Kippour dans une synagogue. Il était un juif pieux. Et dis-moi, bon, j'étais là, à prier. Il dit, j'étais sans lieu de m'occuper, de penser à mes travaux sur le sermon sur la montagne. Et soudain, fouillant dans la bibliothèque de la synagogue, là, feuilletant les vieux livres, il est tombé sur un vieux sidour. Un vieux sidour qui venait d'Europe centrale et qui n'était pas un sidour, vous savez, le sidour, c'est le livre de prière, qui n'était pas celui qui était généralement utilisé dans les synagogues en Israël. Alors, comme il est toujours un peu curieux, il a commencé à feuilleter ce sidour et il a trouvé cette prière. Donc, ça date à peu près du Moyen-Âge, mais souvent, les textes du Moyen-Âge reprennent des traditions orales qui étaient beaucoup plus anciennes. Il a trouvé ceci, « Seigneur, aie pitié de ton peuple, de ton héritage, qui ont faim de ta justice et soif de ton salut. » Et soudain, tac, il s'est dit, « Mais non !» L'argument de Bultmann tombe. Il y a des prières juives où il est question de ceux qui ont faim et qui ont soif. Enfin, c'est un détail parmi d'autres. Mais ça montre que finalement, là, aujourd'hui, on arrive à une preuve, à un ensemble impressionnant de preuves de l'authenticité de l'Évangile. Et finalement, des hommes comme professeur Flusser me disaient d'ailleurs la dernière fois que je me rencontrais, c'était en septembre, que la personne de Jésus, elle nous apparaît avec une clarté, une clarté, une limpidité totale au travers des Évangiles. Contrairement, il reprend... Bultmann a contre-pied totalement, complètement, n'est-ce pas? Et il disait, on peut avoir une certitude. Alors, comme il est, c'est un scientifique, il garde toujours une petite réserve. Il dit, à 99,9% de la certitude des évangiles. Nous pourrions dire à 100%. Mais enfin, il n'en était pas loin. Il n'en était pas loin. Alors, ça, c'est une chose tout à fait intéressante. Il arrive à la conclusion que l'évangile de Jean a été écrit dans les années 60 à 65 après Jésus-Christ, tandis que les synoptiques ont été écrits dans les années 50 à 55 après Jésus-Christ. C'est-à-dire, pratiquement dans la foulée, par la génération qui a connu Jésus. Ce n'est pas de problème. Et dans la génération qui a connu Jésus. Ce qui faisait dire, encore une fois, à l'abbé de Carmignac que... On connaît aujourd'hui, si on s'était trouvé en 50 à Jérusalem, 50 après Jésus-Christ, et qu'on aurait pu avoir accès à l'évangile de Marc, qui circulait déjà à cette période-là à Jérusalem, et on aurait connu Jésus aussi bien que... Plutôt, aujourd'hui, on connaît Jésus aussi bien qu'on l'aurait connu à ce moment-là. À Jérusalem, on aurait encore rencontré des gens qui avaient connu Jésus, qui aurait pu nous dire que s'il était grand ou petit, s'il avait les yeux bleus ou les yeux bruns, bon, des choses comme ça, c'est tout. Il aurait ajouté simplement des choses comme ça. Mais rien de particulièrement fondamental. Alors certains auraient bien aimé évidemment savoir si Jésus avait les yeux bleus et les yeux bruns, bon, ça c'est... Et certain que pour le Seigneur c'est extrêmement secondaire. Alors, une chose très intéressante, c'est que cet évangile de Marc... Il a vraisemblablement été écrit à Rome. Le père de l'Église, un des pères de l'Église s'appelle Papias, a donc déclaré ceci, que Marc, qui est l'hermateute de Pierre, l'hermateute, ça veut dire l'interprète, a écrit avec exactitude ce dont Pierre se souvenait et ce qu'avait prêché et dit le Seigneur. Alors ici, il y a cette ancienne tradition qui semble vraie, que l'évangile de Marc, qui semble être un des plus anciens évangiles, a été dicté par Pierre depuis Rome, peu avant la grande persécution, n'est-ce pas, qui a décimé l'église de Rome, et qu'elle a été dictée à Marc, qui était le secrétaire donc de Pierre. Et cet évangile, manifestement, est devenu l'évangile des communautés de Rome, des communautés de Rome et des environs. Et cet évangile a dû dépasser la renommée de Rome, notamment après la mort de Pierre, de telle sorte que les églises voisines en ont demandé des copies. Et il y avait à Rome, en quelque sorte, une maison d'édition de l'évangile de Marc. Et l'église de Jérusalem en a demandé au moins une copie. Et cette copie se trouvait dans la bibliothèque de l'église de Jérusalem, jusqu'au moment de l'avance des Romains, en 68. Et les chrétiens de Jérusalem ont alors fait ce que faisaient tous les juifs pieux, n'est-ce pas ? Ils ont sorti ce qu'ils avaient de plus précieux, leurs manuscrits, et ils les ont mis à l'abri dans les grottes des environs de la mer Morte. La grotte dans laquelle se trouvaient les manuscrits du Nouveau Testament, qui contenaient des fragments de Marc, mais aussi de fragments des Épîtres, un certain nombre d'Épîtres, Épîtres de Pierre notamment, Épîtres à Timothée, Épîtres aux Éphésiens, etc. Donc, vous voyez, Timothée, on est dans ces années-là, hein, ici, 68, 69 maximum, si vous voulez. Timothée, c'est 60, c'est le début des années 60. Hein. Donc, si vous voulez, entre Pierre aussi, finalement, les Épîtres de Pierre, c'est la fin des années 50, début des années 60. Et à peine 10 ans après, ces Épîtres avaient atteint l'église de Jérusalem. Donc, ces manuscrits sont déposés dans une grotte près de la mer Morte. Contrairement à ce qui s'est passé pour les documents de la mer Morte les plus connus, de la grotte Q4 par exemple, que les Romains n'ont pas réussi à violer, que les Romains n'ont pas réussi à découvrir, il semble que la grotte dans laquelle se trouvaient les fragments de, enfin les rouleaux des chrétiens, des judéo-chrétiens, ont été découverts par les Romains. Et les documents ont été déchirés. Les Romains certainement les ont vandalisés, les ont déchirés, etc. Et on n'a retrouvé que des fragments, malheureusement, à peu près de la grandeur d'un timbre-poste, quoi. Mais un fragment d'un timbre-poste, pour un papyrologue, ce sont des fragments de papyrus, qui plus est, ce n'est pas des parchemins, ce sont des papyrus. Pour un papyrologue, un fragment comme un timbre-poste, ça enseigne beaucoup de choses. Et surtout quand on les passe au microscope avec les moyens perfectionnés qu'a la police israélienne, ça vous apprend une foule de choses. Et le professeur Tieck a écrit un bouquin comme ça, épais comme ça, sur le seul fragment de Marc qu'il a découvert, quoi. Comment on tire des conclusions de la qualité de l'encre, du fait qu'il y avait un défaut dans le papyrus et que la plume du scribe a glissé à un certain endroit, ce qui fait que ça à cet endroit-là, le trait devient plus épais, etc. Enfin, il tire des conclusions comme ça extraordinaires, quoi. Hein, extraordinaires de l'étude de ce simple fragment de papyrus, quoi. Hein. Alors ici, donc nous avons des documents qui sont extrêmement anciens. Et même chose en ce qui concerne l'Apocalypse. On datait de l'Apocalypse, de la persécution de Domitien en gros, c'est-à-dire deuxième siècle. Bon. Il y a aussi une raison, c'est que l'Apocalypse annonce aussi la ruine de Jérusalem, à peu près dans les mêmes termes que ce qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Jérusalem sera foulée aux pieds. Vous savez, dans l'Apocalypse 12, vous avez le lieu saint qui est aussi foulé aux pieds. Donc on disait, ça ne peut pas être, antérieur à 70. Manque de chance. Aujourd'hui, il semble bien que l'Apocalypse date de ces années-là, justement. N'est-ce pas ? Et que on ait un texte, finalement, qui est très ancien aussi, qui antédate la ruine de Jérusalem. Ça, ce sont les dernières découvertes, hypothèses dans ces domaines-là. Bien sûr, C'est très combattu, ces thèses-là. Il y a une levée de bouclier terrible, vous comprenez, c'est toujours la même chose, parce que tant et tant de spécialistes ont écrit des thèses fort savantes qui leur ont valu des prix extraordinaires sur les autres hypothèses, sur Bultmann, etc. Bon, c'est pas très agréable pour un savant qui a consacré toute sa vie à démontrer qu'on peut rien connaître sur Jésus, soudain de s'entendre dire que tous les piles de bouquins qu'il a écrites, il peut en faire un peu de joie. Bon, vous comprenez que ça lui fait un petit quelque chose quand même, quoi. Alors il défend son morceau, bec et ongle, quoi. Alors, bon, actuellement, la querelle des spécialistes fait rage. Mais il est certain que quand on étudie sans a priori les arguments des uns et des autres, la somme des arguments en faveur de l'authenticité des évangiles et en faveur de l'antiquité des évangiles devient maintenant absolument impressionnante. Absolument impressionnante. Alors, c'est grâce notamment à toutes ces découvertes archéologiques qu'on arrive finalement à des conclusions de ce type-là. Maintenant, comme je le disais la dernière fois, nous avons ici une langue grecque, mais qui est un décalque de l'hébreu. Le grec du Nouveau Testament n'est pas un mauvais grec. Il n'y a ni lourdeur ni maladresse, mais il est écrit en caractère sémitique. Par exemple, en ce moment, je suis en train de traduire en hébreu le texte que j'ai écrit sur l'histoire de ma famille, pour le donner à quelques amis en Israël. Bon, quand j'aurai terminé, je l'enverrai à notre ami Meir, là-bas, pour qu'il le mette en style hébreu, parce que je ne voudrais pas que ceux qui le lisent disent « Tiens, ça c'est du français traduit en hébreu. Hein ». La manière de penser du français n'est pas la même que celle de l'hébreu. Et traduire directement de l'hébreu, vous savez, c'est tout le problème du thème. Hein, l'effort en thème, vous savez, c'est vraiment la crème. Quand on arrive à être fort en thème, ça veut dire à traduire de sa langue, n'est-ce pas, dans une langue étrangère, comme si c'était quelqu'un qui parlait directement et qu'on ne sente pas que c'est une traduction, ça c'est le fin du fin de la traduction. Il ne faut pas qu'on sente que c'est une traduction. Bon, les évangiles, on sent que c'est une traduction. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont traduit étaient des mauvais traducteurs, ils l'ont fait volontairement, ils l'ont fait délibérément. Ils l'ont fait délibérément, justement, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, ils avaient un tel respect pour les paroles de Jésus, pour le texte original qu'ils avaient entre les mains, qu'ils ont voulu rester fidèles, même lorsque ce qu'ils allaient dire, en traduisant mot à mot, ferait que ce soit obscur. Comme j'ai cité la dernière fois, les pauvres en esprit, par exemple. Alors, nous avons ici un témoignage aussi de Papias, dont je parlais tout à l'heure, un des pères de l'Église, qui nous dit une chose très intéressante. Il nous dit à peu près ceci. Matthieu mit en hébreu les paroles de Jésus. En grec, c'est les logia de Jésus. Et ensuite, chacun les traduisit comme il put. Alors ici, ce texte est très intéressant. Parce qu'il confirme ce que l'on sent, justement, quand on étudie le grec du Nouveau Testament. Parce qu'il confirme aussi ce qu'on trouve dans d'autres sources. Notamment chez Jérôme, qui nous dit qu'il a consulté dans la bibliothèque de Césarée un évangile hébreu. Nous avons d'autres témoignages qui nous parlent de l'existence d'un évangile hébreu. Par exemple, les Nazaréens, qui sont considérés par les historiens de l'Église officielle comme une secte, mais qui étaient les descendants de l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire des Hébreux, des Hébreux chrétiens, comme on dirait aujourd'hui, ou des Juifs messianiques, fidèles, qui avaient une foi véritablement orthodoxe. Mais un des reproches qu'on leur a fait à partir de l'époque de Constantin, c'est qu'ils avaient un évangile hébreu. Comment peut-on lire la Bible en hébreu ? Et en particulier, comment peut-on lire le Nouveau Testament en hébreu ? Ils étaient hérétiques à cause de ça, parce qu'ils avaient, entre autres choses, un évangile en hébreu. Il n'y avait pas que ça, mais enfin, c'était un des chefs d'accusation essentiels qu'on portait contre eux. Bien. Alors, cet évangile était-il ce qu'on appellerait le proto-Matthieu ? Or, il semblerait qu'il y ait eu deux étapes en ce qui concerne l'évangile de Matthieu. Une première étape où Matthieu a rédigé, nous était dit, les paroles de Jésus. C'est-à-dire les paroles et non pas les actes. Et quand on examine l'évangile de Matthieu, on se rend compte que l'évangile de Matthieu est construit autour de 5 grands discours de Jésus. Le sermon sur la montagne, le discours sur la vie en communauté, les paraboles du royaume, le grain de sève, tout ce que vous voudrez, le discours sur l'envoi en mission, les disciples, les recommandations qu'il leur donne quand ils envoient en mission, et puis le grand discours sur la fin des temps, Matthieu 24, 25. Ce sont les 5 grands discours. Bon, pourquoi 5 grands discours ? Parce que Jésus est le prophète selon Moïse, celui qui avait été annoncé, et que Moïse a donné 5 livres à la Torah. Donc Jésus, le nouveau Moïse, aussi donne 5 grands discours. Alors il semblerait qu'au départ, dans l'évangile de Matthieu, si on en croit Paphias, il n'y avait que les 5 discours de Jésus. Et c'est dans un deuxième temps, semble-t-il, qu'on a intercalé entre ces 5 discours les événements de la vie de Jésus, ce qu'on appellerait la Haggadah, n'est-ce pas ? Il y a 2 parties dans l'évangile de Matthieu, la partie halachatique, c'est-à-dire la partie enseignement, et puis la partie agadatique, c'est-à-dire la partie narrative. Et la partie narrative semble avoir été ajoutée dans un deuxième temps. Troisième évangile, l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, là aussi, semble extrêmement intéressant. Et les travaux du professeur Flusser, plus exactement pour rendre à César ce qui lui revient, du pasteur Robert Lindsay de l'église baptiste de Jérusalem, qui était un érudit et qui ensuite a été rejoint par le professeur Flusser, mais c'est quand même le pasteur Lindsay qui a lancé le premier la recherche. Le pasteur Lindsay a mis en évidence aussi la très très grande antiquité, n'est-ce pas, de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Luc. Et il a noté que souvent l'évangile de Luc était des évangiles synoptiques celui qui était le plus complet, le plus précis. Faut-il s'en étonner d'ailleurs, puisque Luc lui-même dit au début de son évangile qu'il a fait des recherches exactes, et qu'il a recherché donc l'exactitude, non pas que les autres ne soient pas exacts, mais peut-être moins complet que ne l'était l'évangile de Luc, n'est-ce pas ? Et ce faisant, n'est-ce pas, il y a ici quelque chose qui montre que Luc travaillait sur des documents sémitiques, hein, et que le texte est beaucoup plus ancien que ce que l'on imaginait. C'est la conclusion à laquelle il arrive justement le professeur Lindsay. Alors, par exemple, les cantiques de Luc, ce qu'on appelle le Magnificat ou le Nunc Dimittis ou le cantique de Zacharie, obéit aux lois de la poésie hébraïque et non pas de la poésie grecque. Donc il y a un texte hébraïque sous-jacent. Les formules et les phrases de ces cantiques ne se retrouvent nulle part ailleurs, dans aucune des épîtres. Parfois, il y a même une guématria sous-jacente. Hein. Par exemple, les jeux de mots dans les cantiques, justement, dans les évangiles de l'enfance, il y a des jeux de mots sur le nom des personnages, et choses comme ça. Hein. Que si on ne connaît pas l'hébreu, on ne repérera pas. Alors, maintenant, on en revient à ce fameux problème synoptique. Pourquoi les ressemblances et les différences entre les évangiles synoptiques ? Est-ce la tradition orale ? Alors, on a émis l'hypothèse déjà depuis bien longtemps, même avant Bultmann, que les évangiles synoptiques font usage d'une source commune. Une source commune qui nous est aujourd'hui perdue, qu'on appelle « quel est ». Je ne sais pas comment on dit ça en allemand, c'est de l'allemand. Et que finalement, quand on a dit ça, on n'a rien dit, quoi. Parce que s'il y avait une source commune, comment se fait-il qu'il y ait des divergences entre les évangélistes ? Pourquoi ils ont laissé tel évangile, tel évangéliste a laissé de côté tel épisode de la vie de Jésus, telle parole de la vie de Jésus ? Pourquoi tel autre l'a gardé, etc. Pourquoi tel évangile a des paroles ou des textes, n'est-ce pas, qu'on ne trouve ni dans l'un ni dans l'autre ? Enfin, là, cette histoire de sources anciennes communes, en voulant résoudre le problème, en fin de compte, ne résout rien. Et il faut reconnaître que là, on continue à nager un petit peu en plein mystère. Alors ensuite, on a les épîtres. La deuxième épître, les deux épîtres aux Corinthiens ont été écrits donc en 54 et 56 environ. Mais les plus anciennes sont les deux épîtres aux Thessaloniciens. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 8, verset 18, on trouve un texte, une mention intéressante, tout à fait. Le frère qui sert dont il est question ici, d'après certains spécialistes, il s'agirait précisément d'une allusion à Luc, n'est-ce pas ? Luc, et ce serait une allusion au fait que Luc a écrit justement l'évangile. C'est en tout cas ce que déjà Origène avait compris. Paphias nous dit aussi que l'évangile de Pierre, c'est-à-dire l'évangile de Marc, a été écrit en hébreu, et ensuite Marc l'a traduit en grec. Il semblerait que Marc ait ajouté certaines choses au texte de Pierre, par rapport justement à ce qu'il pouvait avoir d'autres sources. Ça, tout ça, c'est des hypothèses, parce que là, on ne peut pas être sûr à 100% de rien. Mais en tout cas, il pouvait le faire parce qu'il avait une connaissance parfaite de la pensée de Pierre. C'est évident, il a dû entendre Pierre raconter de multiples fois les événements qu'il a ensuite rapportés. Irénée de Lyon aussi écrit une chose intéressante. Il nous dit ceci. « Matthieu publia en hébreu, chez les Hébreux, dans leur propre langue, un livre qu'il appela l'Évangile. Après le départ de Pierre de Rome, Marc, disciple et traducteur de Pierre, nous a aussi transmis la prédication de Pierre, tandis que Luc, compagnon de Paul, mit dans un livre l'Évangile prêché par lui, prêché par Paul. » Alors, Irénée de Lyon, c'est pas n'importe qui. C'est quand même la troisième génération après Jean. Il était le disciple de Polycarpe de Smyrne, qui était lui-même disciple de Jean, qui avait connu Jean de son vivant. Donc c'est la troisième génération après Jean. Et par conséquent, Irénée confirme ici ce qu'on trouve chez Papias. Et contrairement à ce qu'affirment les spécialistes modernes, encore une fois, nous n'avons qu'une raison de mettre en doute ces témoignages-là. Trois intermédiaires, Jean, Polycarpe, Irénée. C'est infiniment plus que, encore une fois, comme disait l'abbé de Carmignac, une information qui nous vient par la radio, par la télévision. C'est infiniment plus sûr, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Voilà. Alors, on trouve aussi d'autres pères de l'Église qui s'expriment un peu de cette manière-là. Voici ce qu'on trouve, donc, chez ce qu'on appelle la vie de Pantène. Pantène était un évangéliste des premiers siècles qui est allé évangéliser les Indes. Et voici ce qu'on dit dans ses mémoires. On dit que Pantène alla aux Indes, où il trouva à sa venue un évangile de Matthieu, chez certains indigènes du pays qui connaissaient déjà Jésus. Un disciple de Jésus y aurait prêché avant Pantène et leur aurait laissé un exemplaire hébreu de l'évangile de Matthieu. Les traditions anciennes, qu'il est impossible de vérifier cette fois-ci, affirment que ce disciple ancien ne serait autre que Thomas. Thomas, l'incrédule, aurait été l'apôtre des Indes. Le texte de Pantène nous dit un disciple. Il y a eu un disciple, manifestement. Et certainement que quand Pantène est arrivé là-bas, il ne dit pas n'importe quoi. Il a bien trouvé sa venue préparée par un évangile qui avait été apporté par d'autres. N'est-ce pas ? On sait qu'il y avait des communautés juives aux Indes, n'est-ce pas ? Et bon, maintenant, quant à savoir s'il s'agit de Thomas ou d'un autre, bon, il y a une tradition qui l'affirme. Quelle est la base de cette tradition ? C'est difficile de dire. Clément d'Alexandrie, maintenant. Voici ce qu'il écrit. Quant à Marc, pendant le séjour de Pierre à Rome, il mit par écrit les actes du Seigneur, sans toutefois les raconter tous. Ceci, c'est très intéressant. Ça montre que l'évangile de Marc fait un choix parmi ce qui a été rapporté. Alors, peut-être que là, une affirmation de ce type-là nous donne une approche du problème synoptique. À savoir que peut-être qu'effectivement, il y avait une source commune, soit une source orale, soit une source écrite. Pendant longtemps, avec Marcel Jousse, n'est-ce pas ? on a cru à une source orale. Maintenant, avec les travaux de Carmignac, de Flusser, d'autres, n'est-ce pas, peut-être c'était plus une source écrite. Finalement, peu importe. Peut-être y a-t-il eu une source, la fameuse, comme tu disais, Quelle, n'est-ce pas. Mais on appelle tout simplement Q quand on écrit en abrégé, n'est-ce pas. Q, n'est-ce pas, c'est la source. Et que finalement, ceux qui ont rédigé les évangiles synoptiques ont fait un choix. Ont fait un choix dans ce... que la source était certainement plus détaillée que ce qu'on trouve dans les évangiles synoptiques. Jean aussi dit un peu ça. Hein, il dit à la fin de son évangile, vous savez, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Par les évangiles synoptiques. Il a conscience, l'auteur de l'évangile de Jean, a conscience de combler ici des choses que les autres qui sont venus avant lui n'ont pas dites. Hein? Il ajoute des choses qui lui semblent importantes. Et, bon, peut-être que là, on a une des clés, ou une approche en tout cas du problème synoptique. Clément d'Alexandrie nous dit aussi que, après la mort de Pierre, ça c'est très intéressant, Marc est venu à Alexandrie avec un exemplaire de l'évangile qu'il avait recueilli à Rome. Vous savez, il y a une ancienne tradition qui a tout lieu là, cette fois-ci, d'être authentique, selon laquelle Marc aurait été l'évangéliste de l'Égypte. Et encore aujourd'hui, les Coptes considèrent Marc comme leur évangéliste. Je dis ça tout lieu d'être authentique parce qu'il semble bien que Clément, qui savait de quoi il parlait encore, il était contemporain de l'époque. Eh bien, confirme cette venue de Marc à Alexandrie. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Évangile n'avait pas atteint Alexandrie auparavant, peut-être par des disciples anonymes, mais Marc, certainement, lui a donné sa structure à l'Église d'Égypte. Alors, voici ce qu'écrit, continue à dire Clément. « Il n'a pas diffusé l'enseignement du Seigneur, mais à sa mort, il l'a laissé à l'Église d'Alexandrie. » Voilà. Origène, qui lui écrivait un petit peu plus tard, mais quand même, il était proche de l'époque, dit ceci. Matthieu a écrit pour les croyants issus du judaïsme et il a composé son évangile en langue hébraïque. Le seul évangile, celui de Marc, l'a fait comme Pierre le lui a indiqué. Autre père de l'Église, Eusèbe de Césarée. Matthieu, prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il devait aller aussi vers d'autres, il livra à l'Écriture, dans sa langue maternelle, son évangile. Ça veut dire qu'il a traduit l'évangile en grec. Alors ça, c'est très intéressant, parce que si effectivement Matthieu est l'auteur de la traduction en grec de son évangile, ça veut dire que nous avons un texte très sûr, parce que lui, il savait de quoi il parlait. Il risquait pas de trahir sa pensée. Alors, donc, j'ai cité Jérôme qui évoque le fait qu'il avait trouvé un exemplaire de Matthieu en hébreu dans la bibliothèque de Césarée. La fin du livre des Actes, et le prologue d'ailleurs des Actes, font clairement allusion à l'évangile de Luc. Ce qui fait que on ne peut pas dater l'évangile de Luc au-delà de 58-60 après Jésus-Christ, pendant la captivité de Paul à Césarée, vraisemblablement. Ou selon Colossiens 4, verset 14, Luc était près de lui. On peut penser, n'est-ce pas, que pendant la captivité de Paul à Césarée, Luc a mis à profit ses loisirs forcés pour écrire, peut-être sous la dictée de Paul, l'évangile justement qui porte son nom. Alors, entre parenthèses, vous verrez dans le prochain Kéren, n'est-ce pas, qu'on a retrouvé à Césarée le lieu où vraisemblablement Paul a été emprisonné, la prison, n'est-ce pas, qui était celle qui était utilisée à l'époque où Paul a été emprisonné, et donc vraisemblablement Paul a été emprisonné dans cet endroit-là. Peut-être que c'est l'endroit où a été aussi rédigé l'évangile de Luc. Alors, maintenant, il y a un autre problème, c'est un problème qui revient constamment. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on dit, bien, tout ça est bel et bon, mais... L'évangile n'a-t-il pas été écrit en araméen, langue parlée à l'époque de Jésus? Et depuis le XVIe siècle à peu près, il y a l'idée que la langue originelle des évangiles était l'araméen. Et on entend aujourd'hui ça encore dans bien des lieux, dans bien des endroits. En fait, c'est en 1555 qu'un certain Van Virchmen, je ne sais pas comment on dit ça, c'est du Virchmenstadt, a pensé qu'on ne parlait plus l'hébreu à l'époque de Jésus et que par conséquent, les originaux du Nouveau Testament étaient écrits en araméen. Bon, première objection, tous les textes que nous avons cités tout à l'heure des pères de l'Église parlent d'hébreu et non pas d'araméen. Alors, Von Wirsch a dit une chose, dit oui, mais il faut comprendre araméen, langue hébraïque, il faut comprendre l'hébreu, on parle l'hébreu, langue hébraïque, donc araméen. Bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, première chose. Hein. Alors, maintenant, les découvertes de Qumran ont démenti cette hypothèse. Parce que les écrits de Qumran sont écrits en hébreu, ce qui montre qu'à l'époque de Jésus, l'hébreu était parlé en Israël. Contrairement à ce qu'on affirmait jusque maintenant. Et de nombreux modernes, maintenant, sont arrivés à cet avis-là. Déjà Jus, Marcel Jus, qui pourtant était un grand spécialiste de l'araméen, pensait aussi que les évangiles étaient en fait écrits en hébreu. Bellroos, un des inventeurs des manuscrits de la mer morte. Même Wellhausen. Aujourd'hui, l'abbé Laurentin, qui a beaucoup travaillé sur les évangiles de l'enfance, le pasteur Lindsay, David Flusser, Pinchas Lapide, Claude Trémontant, Jean de Carmignac, je pourrais allonger la liste de plus en plus. Alors, justement, j'aimerais évoquer ici les travaux de deux savants qui me semblent avoir fait des découvertes extrêmement intéressantes dans le domaine, Claude Trémontant et Jean de Carmignac, l'abbé Jean de Carmignac. Ce sont deux catholiques tous les deux, mais ce sont des gens qui ont fait un travail extrêmement intéressant, extrêmement sérieux. Claude Trémontant, à partir de toutes les découvertes que nous avons évoquées, est arrivé à la conclusion que, dans l'entourage de Jésus, un certain nombre de ses disciples étaient lettrés. Bon, nous avons quelqu'un comme Lévi, Matthieu justement, spécialiste des douanes, il est évident que c'était un homme qui avait l'habitude de la lecture et de l'écriture. Même si les disciples de Jésus étaient considérés comme des hommes du peuple sans instruction, c'était vrai pour certains d'entre eux, c'était pas vrai pour tous. Il y avait au moins donc ici ce Lévi Matthieu qui effectivement va jouer un rôle extrêmement important dans la rédaction de l'évangile comme on le sait. Il est donc vraisemblable, dit Claude Trémontant, que selon la coutume de l'époque, certains de ses disciples aient pris des notes en hébreu. Encore une fois, en hébreu et non pas en araméen, parce que l'hébreu était la langue dans laquelle on écrivait les choses officielles. Tout ce qui était officiel se faisait en hébreu. Comme le disait le professeur Flusser, quand je m'entretenais avec lui il y a bien longtemps à Jérusalem de ces choses, il disait c'est exactement comme en Suisse allemande, aujourd'hui, en Suisse alémanique, les Suisses allemands ont un patois qu'ils parlent entre eux dans la vie courante quand ils vont dans les magasins, qu'on appelle le Swiss Dutch, mais tout ce qui est officiel, à l'école, l'enseignement est en pur allemand, les actes officiels dans les tribunaux, tout ça c'est en pur allemand, et puis dans les églises, la prédication est donnée en pur allemand. C'est pas ? Il en allait de même en Israël à l'époque de Jésus. Dans la vie courante, on parlait araméen. De ce fait, il y a des termes araméens qui apparaissent dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce qui était d'ailleurs un des arguments aussi pour le hollandais, là dont je parlais tout à l'heure, disant, mais voyez, il y a des termes araméens, etc. Bon, il y a des termes araméens, tout simplement, parce que là, ce sont des conversations courantes qui sont évoquées, n'est-ce pas ? Alors vous allez me dire, mais il y a la parole de Jésus sur la croix, il prononce le psaume 22 en araméen. Bon, ça c'est dans les évangiles, les autres disent qu'il l'a prononcé en hébreu d'abord. Et puis deuxièmement, c'est vrai que parfois certaines prières étaient dites en araméen, c'était rare. Il y avait certaines rares prières, par exemple, encore aujourd'hui, le Kaddish est récité en araméen et non pas en hébreu. C'est pourtant une des plus importantes prières. Bon, c'est une des coutumes comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc il est possible aussi que de temps en temps il y avait des choses comme ça en araméen. Donc il y avait très rapidement des cahiers de notes qui circulaient parmi les disciples de Jésus, chacun ayant placé sur ses cahiers de notes ce qui lui paraissait le plus sûr. Et là, c'est donc la théorie de Trémontant pour expliquer le problème synoptique. Et finalement, contrairement à ce qu'affirment les exégètes classiques, il n'y a pas une seule source commune, la fameuse Quelle, hein. Mais il y a des sources communes. ont été gardés justement par des disciples de Jésus. Ce qui expliquerait justement les différences entre les disciples optiques. Bon, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Le problème synoptique est tellement complexe qu'il n'y a pas de solution qui fasse vraiment l'unanimité. C'est une possibilité. On ne peut pas l'écarter, on ne peut pas dire non plus que c'est la seule. Donc, ces cahiers pouvaient être différents en quantité, pouvaient être différents en qualité. Et il est évident que quand on reçoit quelque chose, une information, la manière dont on la reçoit fait qu'il y a toujours une perte de l'information. Donc il y a eu de toute façon une perte d'une certaine densité du message de Jésus, ça c'est inévitable, parce que justement, l'homme est ce qu'il est. Ensuite, il a fallu traduire en grec, il y a aussi un petit peu là, une nouvelle perte en quelque sorte de la qualité de l'information. Mais à partir de cette période-là, à partir du moment où on a traduit en grec, il y a eu une espèce de lexique, dit Trémoncan, hébreu-grec du Nouveau Testament, qui s'est créé par la force des choses. C'est-à-dire que c'était pas peut-être pas un lexique qui était publié par une académie, l'académie de Jérusalem ou quelque chose comme ça, mais dans les faits, c'était quelque chose, si vous voulez, qui naissait spontanément en quelque sorte. Et les traducteurs ont serré le texte de près en ne cherchant pas, dit-il, à le rendre tolérable aux oreilles formées par la littérature grecque. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'était des textes non pour divertir, mais c'était des textes pour instruire. C'était des choses qui étaient tellement saintes que on n'était pas là pour faire de la poésie ou pour faire quelque chose qui soit agréable à l'oreille, de l'art, contrairement à nos braves modernes qui veulent absolument qu'on évangélise par l'art. Non, c'était quelque chose qui était important. Alors il passe ensuite en revue les différents évangiles, ça on verra si vous voulez la prochaine fois. Bien, on s'arrête là pour ce soir.